remercie Stéphane Gaulier et le patronage de m'avoir invité. Ce patronage que j'ai découvert, tout neuf, dans un local superbe et qui fait des activités tout à fait passionnantes, dont il se trouve que je fais partie maintenant. C'est la laïcité, si je peux dire, ailleurs dans le monde. Beaucoup de gens tout à fait remarquables et que je connais, si ce n'est pas parce que je les ai rencontrés, c'est le cas de Bobéro, mais que j'ai lu, Pena Ruiz ou Catherine Kinsler, il y a eu des gens tout à fait remarquables sur des points de vue différents et très clairs pour certains d'entre eux sur la laïcité. Ici, on va parler, et justement, ça vient d'être rappelé, du sécularisme en Inde, en gardant ce terme qui est anglais, et non pas de laïcité. Très rapidement, oui, je suis ethnologue, effectivement. Ça fait fort longtemps que je travaille, depuis 1963, en Inde du Sud, c'est-à-dire sur la carte, un peu à mi-chemin, entre Madras en bas et Calcutta en haut. C'est l'état d'Andhra Pradesh. Et j'ai fait de longues enquêtes et écrit quelques choses sur des pêcheurs en mer de la côte du golfe du Bengale, de cet état de l'Andhra. Et puis je me suis, mais pour des raisons autres, mais pas vraiment éloignées, intéressé à quelqu'un qui s'appelle le docteur Ambedkar, qui a été à la fois un leader des castes intouchables indiennes, qui est mort en 1956, après s'être converti au bouddhisme, et qui a été, comme l'on dit, un des principaux artisans de la constitution de l'Inde indépendante. Alors, je voudrais essayer de ne pas dépasser les 45 minutes. J'aime, je dois dire, beaucoup faire ce genre d'exercice, de présenter des affaires et des choses indiennes à des gens qui ne les connaissent pas. C'est un exercice beaucoup plus difficile que de parler à des collègues qui, au fond, considèrent qu'un certain nombre de termes qu'on utilise vont de soi, qu'on n'a pas besoin de les définir. Et là, au contraire, on a besoin, j'espère y arriver aujourd'hui, d'être à la fois concis et très clair. Et l'exercice, c'est que précisément, à chaque fois que le public est comme ça un public étranger au domaine et à la spécialité, l'obligation de devenir et d'être de plus en plus clair est extrêmement grande. Alors, j'espère que je serai clair sur des choses qui ne sont pas forcément simples, comme chaque fois qu'on veut vraiment parler de l'Inde. Alors, je commencerai par donner quelques données fondamentales concernant l'Inde. Ensuite, parler de la Constitution. C'est un document tout à fait remarquable et exceptionnel. Et pour un sociologue, pour un ethnologue, c'est quelque chose qui révèle non seulement des tensions et des visées et des idéologies politiques, mais quelque chose d'une société. Surtout quand on lit ce que j'ai fait, tous les débats qui sont maintenant d'ailleurs tout à fait accessible sur Internet, de l'Assemblée constituante entre 1946 et 1950. Et puis ensuite, tout bêtement, je prendrai un quatrième point, si je peux dire, qui sera celui de définir la religion, puisqu'on va parler de religion et de sécularisme, et traduire la religion, il est évidemment en anglais. Donc, il faut le traduire. Bon, et ensuite, il faut faire la même chose avec secular. Il faut le définir, si c'est possible, comme la religion, si c'est possible, et le traduire aussi, le traduire dans les langues indiennes. Et puis, terminer, mais au fond, ça peut être assez vite, sur à la fois la pratique de ce sécularisme et surtout, je dirais, les opposants indiens à cette notion et à cette inscription du sécularisme dans la Constitution. Alors, les données fondamentales, parce qu'il faut bien avoir ça en tête, c'est, vous la rappelez, un, la population de l'Inde, c'est des chiffres, le dernier recensement, il y en a tous les 10 ans, a été fait en 2011, vous le mettez à jour comme vous voulez, en rajoutant 2%, 3%, 10%, mais voilà, la population, c'est 1 milliard 200 millions d'habitants. Les langues. Il y a 23 langues officielles. Il y en a infiniment beaucoup plus, langues dialectes. Mais ça veut dire 23 langues, dont un grand nombre, sont des langues qui définissent ou qui répondent à un État. La création des États, puisque l'Inde est une union fédérale, a été faite dès l'indépendance, et les États se sont multipliés. Mais, par exemple, le tamoul, c'est la langue du pays tamoul, celui du sud de l'Inde, là où il y a Madras. Le Telugu, la langue de l'Andhra Pradesh, qui est juste au-dessus, l'État où je travaille. Le Hindi, la langue du plus grand État du Nord, qui s'appelle Uttar Pradesh, etc., etc. Voilà. Alors, 23 langues officielles, et parmi les plus importantes, il y a bien entendu le Hindi, qui est la grande langue de l'Inde du Nord, avec 422 millions de locuteurs, si on réunit les différentes variantes ou dialectes qui relèvent du Hindi, c'est-à-dire 41% de la population indienne. Après, le Bengali, dans le Bengale, qui est l'État qui jouxte le Bangladesh, et qui s'appelle d'ailleurs West Bengal officiellement en Inde. C'est 94 millions de locuteurs. Le Bangladesh, lui, a 106 millions de locuteurs de Bengali, c'est-à-dire 76% de sa population. Bon. Ensuite, vous avez le Telugu de l'État où je travaille, 70 millions. Et, important, l'Ourdou, 48 millions, un peu plus même, qui est essentiellement la langue des musulmans et qui est parlée au Pakistan par un peu plus, environ 11 millions d'habitants et par 650 000 au Bangladesh. Autrement dit, cette langue qui est issue à la fois du persan et de la rencontre avec le hindi en Inde est infiniment plus parlée en Inde qu'au Pakistan où elle n'est pas la langue dominante. La Constitution a décrété une langue officielle, c'est-à-dire celle dans laquelle toutes les procédures, tous les actes du Parlement, des différentes instances judiciaires, les hautes cours dans les États et la Cour suprême qui coiffe tout le système juridique, et toutes les communications entre le centre et les États, puisque c'est une fédération. Bon. Donc, le hindi n'est pas imposé comme langue à 1 milliard d'individus en Inde, mais c'est une langue de communication officielle. C'est dans cette langue que l'Assemblée constituante a débattu, a rédigé sa constitution, et c'est dans cette langue que travaille le Parlement à New Delhi. Voilà. Donc, ceci est très important. L'hindi a été, en principe, destiné à être la seule langue officielle. Dès le départ, l'anglais a été reconnu au même statut pour 15 ans. Et puis, finalement, ça a été totalement reconduit jusqu'à nos jours. Et donc, en fait, toute communication, tout travail judiciaire ou politique ou administratif se fait en anglais. Voilà. Trois, donc ça, c'est les langues. Très important, bien entendu, parce que je ne vous en mentionne que les plus grandes. Très important maintenant, ce que l'on appelle, et on va toujours garder ce terme, les religions. Alors, ce que nous appelons l'hindouisme, c'est 79,8% de la population de l'Inde. C'est le premier recensement, 2011, où l'hindouisme, déclaré religion, enregistré comme religion sur les citoyens, se trouve inférieur à 80%. Et la grande peur des fondamentalistes hindous, c'est de voir l'islam et les musulmans se multiplier. Bon. Ensuite, et je donne trois petites langues, parce que vous verrez dans la Constitution qu'au fond, tout ça est amalgamé avec l'hindouisme. Le sikhisme, qui est essentiellement la religion dite des sikhs, que vous connaissez, y compris sur Air India, le turban, bon, c'est le Punjab, un état du nord, un peu nord-ouest de l'Inde. Bon. C'est 1,7% de la population. Là, on est sur des chiffres minuscules. Le jainisme, comme le sikhisme, ce sont des... Le terme n'est pas très approprié, des hérésies du bouddhisme, qui se sont, de l'hindouisme, qui se sont construites à travers les siècles, hein, il y a fort longtemps, comme le bouddhisme, à partir et contre, d'une certaine manière, l'hindouisme. Bon. Jainisme, 0,4%, et le bouddhisme, 0,7%. Qu'est-ce que c'est, en dehors de quelques populations au nord de l'Inde, dans l'Himalaya ou une chose par là? C'est essentiellement ce qu'on appelle des néo-bouddhistes, autrement dit, des bouddhistes qui se sont convertis, anciens intouchables, qu'on appelle dalits souvent en Inde, c'est plus délicat d'utiliser le terme, qui se sont convertis à la suite de leur leader, le docteur Ambedkar. Voilà. Là, on les trouve, et beaucoup, Maharashtra, et dans quelques régions de l'Inde. Voilà. Et puis, alors maintenant, religion minoritaire la plus grande, c'est évidemment l'islam, pour 14,2% de la population indienne. Et puis on trouve maintenant évidemment le christianisme pour 2,3%. On mentionne aussi les zoroastriens, ce qu'on appelle les parsis, pour 0,0%. Et on rajoute une série de religions reconnues comme telles, qui sont des religions dites des tribus indiennes, dont la définition, je ne reviendrai pas dessus, mais c'est assez négligeable. Donc ce souvenir de cet hindouisme, avec le sikhisme, le jainisme et le bouddhisme, de l'islam, quelles que soient les formes, en majorité sunnite, mais il y a des chiites à beaucoup d'endroits, qui fait quand même 14,2%. Et le christianisme, 2,3%. Quand on parle des minorités religieuses en Inde, on a essentiellement dans la tête les musulmans et les chrétiens. Alors, maintenant, sur la Constitution. Parce que, après tout, c'est quand même un travail extrêmement remarquable qui a été fait très longtemps, de 46 à 50. Je vous signale que nous sommes aujourd'hui, ce qui est bon signe, disons, non seulement notre président a été en Inde et assisté au défilé, nous sommes au lendemain du Republic Day indien. Le 26 janvier, nous sommes le 27. Bon, nous sommes en contexte. Quant à la Constitution, élaborée et promulguée finalement le 26 novembre 1949, et la République démarre en janvier 50. Voilà. Il faut se souvenir quand même qu'elle a été rédigée par un nombre très petit de gens dans le contexte 46 épouvantable des transferts de population suite au partage et à la partition entre le Pakistan, qui était à l'époque à la fois ce qui est maintenant Bangladesh, et Pakistan à l'ouest, et l'Inde, et les massacres et les millions de morts que ces transferts de population ont fait. L'Assemblée constituante, avec des gens tout à fait remarquables, de bord et de idéologies différentes, a travaillé de dans ce contexte. Alors, il n'y a pas, on verra tout à l'heure, il y a justement, mais pas au départ, tout l'esprit de la Constitution et du travail de la Constituante est séculaire. Et première chose à dire tout de suite, et on peut penser au Pakistan, on peut penser au Bangladesh, il n'y a pas de religion d'État en Inde. Il y a un préambule. Ce préambule dit « Nous, le peuple de l'Inde, avons décidé de constituer l'Inde dans une république souveraine, socialiste, séculaire et démocratique. » Les deux termes, justement, j'y reviendrai, c'est très important, « socialiste, séculaire » n'ont été rajoutés dans la Constitution et dans son préambule qu'en 1976. Bon, par Indira Gandhi, voilà. Et les grandes valeurs, pour prendre un mot un peu trop utilisé en ce moment, sont assurées la justice, la liberté, l'égalité et la fraternité. Et vous voyez quand même que quand se constitue un peuple et une nation indépendante, ex-colonisée, l'idée toujours de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, est rappelée constamment. Alors, quels sont les articles qui nous amènent vers cette assurance affectoire d'une société qui sera séculaire, outre qu'elle sera égalité, fraternité, liberté. Voilà. D'abord, il y a égalité devant la loi. Fort important, puisque tout le monde, quel que soit son endroit et sa qualité, a le droit à être protégé et de bénéficier de la loi. Beaucoup plus important, l'article suivant 15. Interdiction de faire des discriminations pour des raisons de religion, de race, de caste, de sexe ou de lieu de naissance. Vous remarquez tout de suite, évidemment, que si c'est pas de discrimination pour des raisons de religion, de race, de sexe ou de lieu de naissance, on est dans presque n'importe quelle constitution occidentale. Mais le terme de caste y est rajouté. Alors, soyons très clairs, contrairement à ce que j'entends souvent, même de gens qui ne sont pas du tout ignorants, jamais la constitution, ni quiconque, n'a supprimé les castes en Inde. C'est à peu près aussi stupide de dire qu'on n'a pas le droit d'être breton ou on n'a pas le droit d'être catholique ou je ne sais pas quoi. Autrement dit, les castes sont un fait sociologique dont les constituants ont tenu compte, eux-mêmes hindous appartenant à des castes ou, évidemment, des musulmans, quelques chrétiens et quelques autres. Voilà. Alors, plus surprenant pour nous, mais c'est par là qu'on est justement vers ce côté du sécularisme qui prend des formes particulières en Inde, parce que c'est aussi interdiction de discrimination sur la base de la caste, eh bien ça veut dire aussi justement que, par exemple, tout citoyen a le droit d'accéder aux boutiques, aux restaurants publics, aux hôtels, aux places et aux lieux de distraction, ou aussi d'utiliser les puits, les réservoirs, les routes et toutes les places maintenues, entretenues, payées par l'État. Ça nous paraît peut-être surprenant que dans une constitution, quand on a dit qu'il ne fallait faire aucune discrimination sur la base de, etc., on se croit obligé de dire que tout le monde a le droit d'aller dans toutes les boutiques, dans tous les restaurants publics, dans tous les lieux de distraction, d'utiliser tous les puits, tous les réservoirs, toutes les routes. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que dans l'État, et on va le retrouver deux articles plus loin, là, les intouchables sont précisément les gens visés par cet article, puisqu'ils sont, à l'époque, et sans faire de développement encore de nos jours, selon les lieux, selon les États, interdits d'accès aux restaurants publics, interdits d'accès à l'utilisation de puits dans les villages, et rajouter même, ce sera dans un autre article, interdit d'accès à certains des temples hindous. Voilà une réalité indienne dont les constituants ont parfaitement pris conscience. L'article 16, j'y vais vite, c'est « Tout citoyen a le droit de la même manière que n'importe quel autre à des emplois publics. » Bon, et l'article 17 dit « L'intouchabilité, et le terme y est, est abolie et sa pratique, sous quelque forme que ce soit, est interdite. » Voilà. Ça, c'est le grand progrès, si je peux dire, d'une assemblée constituante extrêmement variée et parfois très divisée. Maintenant, et tout ceci se tient, nous arrivons à la religion, et la religion, c'est effectivement liberté de conscience, liberté de pratiquer et de propager sa religion. Autrement dit, d'une certaine manière, la liberté de prosélytisme. Et évidemment que cette liberté-là fondamentale a été largement demandée par les députés chrétiens. Voilà. Alors, ensuite, il y a théoriquement la liberté pour toutes les religions de organiser, diriger ses affaires. Il y a, très important, puisque voilà quelque chose qui ressemble au sécularisme qu'on a envie d'entendre ici, personne ne doit être, c'est l'article 27, obligé de payer impôt ou autre chose pour la promotion, le maintien, le développement d'une religion particulière. Nous sommes là même fort loin de certains États européens encore, et après tout de l'Alsace, Lorraine. Bon. Et deuxième point, l'article suivant, aucune instruction religieuse ne doit être donnée dans aucune institution d'éducation entretenue, payée par l'État. Donc vous voyez qu'un certain nombre de choses sont immédiatement posées clairement dans une constitution qui n'a pas encore mis le terme de « séculaire » dans son préambule. Et tout y est. Voilà. Alors, n'oublions pas, justement maintenant, que c'est ce que je vais faire, il y a deux choses qui restent à définir, et nous n'oublierons pas non plus que que Nehru a dit en 1955 à André Malraux, la phrase est célèbre, rapportée par Malraux lui-même, sur presque la plus grande difficulté qu'il avait rencontrée avec l'indépendance, avait été peut-être de créer un secular state, un État séculaire, dans un pays profondément religieux. Alors, maintenant, on va faire l'exercice, après tout, qui s'impose, c'est définir religion, et c'est de définir séculaire. Et, curieusement, si je peux dire pour nous, on s'aperçoit que la définition de ce que c'est qu'une religion, c'est la Cour suprême indienne qui l'a donné, parce que constamment venaient des plaintes de tel ou tel individu représentant ou tel prêtre de telle ou telle religion, ou pour un temple, je ne sais pas quoi, protestant contre l'empiétement de l'État sur ses affaires religieuses. Et par conséquent, la Cour suprême s'est mise plusieurs fois en état de faire de la réflexion religieuse, d'être presque des théologiens. Et donc ceci est tout à fait important. Elle a considéré que d'abord, la religion n'est pas définie dans la Constitution. Et je vous donne ce qu'elle dit et ce qui est très important. Hein ? Elle a dit que la définition de la religion ne se limitait pas à la relation d'un individu à son créateur et aux obligations qui lui sont imposées pour respecter et rendre un culte à cet être. Car, et voilà la pluralité des religions indiennes, et même, si je peux dire, de l'hindouisme, car toutes les religions, comme le bouddhisme ou le jainisme, ne croient pas en un être suprême. Autrement dit, la croyance en Dieu n'est pas essentielle à une religion. Je pense que ceci, nous, croyants ou incroyants occidentaux, est assez surprenant. Parce que on oublie toujours, on peut aller regarder la définition, justement. Nous ne faisons pas cette réflexion qu'on devrait faire sur qu'est-ce qu'on entend par religion. En tant qu'enseignant d'anthropologie religieuse à Nanterre, évidemment que je l'ai quand même fait beaucoup, et que je proposais toujours aux étudiants cette définition du petit Robert qui est très emberlificotée, dont je vous donne simplement le début, religion, ensemble d'actes rituels liés à la conception d'un domaine sacré distinct du profane et, ce qui est important, destiné à mettre l'âme humaine en rapport avec Dieu. Et évidemment, une grande majuscule. Bon. Vous voyez que donc, nous sommes dans un système de représentation où l'idée même de religion est extrêmement lointaine de la nôtre. Bien entendu que les musulmans la partagent. En gros, cette définition assez stupide, et en tout cas qui doit être critiquée sur chacun de ces termes, correspond, disons, aux trois religions du livre. Et puis ça y est, les trois monothéismes. Bon, mais il n'y a pas que ça au monde. Et ça nous rappelle que l'Inde, non seulement est plurireligieuse, mais qu'elle est polythéiste quand il s'agit de l'hindouisme. Et avec ses variantes, ou disons hérésies, comme le jainisme ou le bouddhisme, pour qui, effectivement, l'idée d'un être suprême n'est pas du tout au centre de leur réflexion et n'est même pas dans les objets de leur croyance sous cette forme-là. Donc c'est tout à fait essentiel. Bon. Alors, ensuite, ayant dit cela, la Cour suprême va... Elle a de très grands pouvoirs, la Cour suprême en Inde. Hein. Bon, par certains côtés, évidemment qu'elle est un peu notre conseil constitutionnel. Si le Parlement vote quelque chose qui est contraire à la Constitution, et elle est souvent consultée pour ça, eh bien, l'article est retoqué. Ça a été il n'y a pas si longtemps. Bon. Tandis que la Cour suprême, c'est beaucoup plus fort, elle a interdit au Parlement de toucher jamais à une partie de la Constitution, la partie 3, de ce qu'elle appelle les droits fondamentaux, qui sont en particulier les articles que je viens de vous lire. On ne peut pas changer. Voilà. Eh bien, on ne pourrait pas, par exemple, décider la perte de nationalité à tel ou tel titre à quelqu'un, puisque, de toute façon, tout citoyen, machin, a le droit d'y être. Donc, c'est un pouvoir extrêmement fort, qu'elle s'est arrangée, d'ailleurs, pour être en même temps, eh bien, l'arbitre, en quelque sorte, de ce qui est bien ou pas bien dans ce qu'on appelle la religion. Et, par exemple, elle a défini une doctrine qu'elle appelle de ce qui est essentiel dans les religions. Donc, elle a pris sur elle de dire, voilà, dans telle ou telle religion, ceci est essentiel. Alors, on ne peut pas y toucher et on doit le respecter. Ceci n'est pas essentiel, l'État peut parfaitement s'en occuper. Et donc, effectivement, elle a même aussi décidé qu'est-ce qui avait le droit de s'appeler religion. Il se trouve que les disciples de Aurobindo, celui que vous avez connu avec son ashram à Pondichéry, prétendait, si je peux dire, être une religion. La Cour suprême, et ce n'est même pas un panel de théologiens, a décidé que non, c'était une philosophie et pas une religion. Bon. Alors, ensuite, sur un certain nombre de choses, par exemple sur l'essentiel de telle ou telle religion, elle a interdit ou a considéré que tuer des vaches n'était pas quelque chose d'essentiel dans le culte et la pratique des musulmans. C'était optionnel, pas essentiel. Ça veut dire quoi ? C'est là que la Cour suprême avance son idéologie par moment mise de côté complètement et à d'autres complètement transparente d'un hindouisme qui dicte un peu sa pensée, son orientation et d'une idéologie hindoue. Et donc pourquoi ? Parce que c'est une manière d'interdire en allant chercher un article de la Constitution très important, 48 et banal, qui disait que, en général, il faudrait faire attention à protéger les bovins. Voilà, les vaches, évidemment, vous savez bien la vache dans l'hindouisme. Hein. Bon, il n'y a pas d'interdiction dans la Constitution de tuer des vaches ou des cochons ou n'importe quoi. Bon, sauf que, sous ce prétexte de cet article 48, protection du bétail, eh bien, l'essentiel de la religion musulmane ne comporte pas, ayant regardé tous les textes, le fait d'avoir le droit de tuer une vache. Bon, donc, on ne peut pas, musulman, si on veut l'interdire quelque part, avoir le droit de tuer des vaches. Bon, ensuite, effectivement, on les voit soutenir, contrairement alors à ce qui était si clairement affirmé de sécularisme, de partage entre l'État et les religions, d'abord une certaine emprise de l'État, qui peut, et on le verra rapidement, intervenir sur la gestion de tel ou tel temple, religion, prêtrise, ou je ne sais pas quoi. En fait, plusieurs fois, justement, on voit la Cour suprême prendre des jugements, rendre des jugements qui soutiennent l'idéologie réactionnaire hindoue. Par exemple, considérant qu'un candidat de la Shiv Sena, la Shiv Sena, c'est ce qu'il y a quasiment de plus fondamentaliste et brutal et anti-musulman dans l'hindouisme ou extrême, voilà, et en particulier dans l'État du Maharashtra, c'est-à-dire là autour de Bombay. Voilà, ce candidat qui avait utilisé à la fois dans un temple hindou un discours d'appel aux hindous pour le soutenir. Bon, dans son élection. Et là, on touche quelque chose de très important parce que c'est aussi l'ambiguïté de l'hindouisme. C'est-à-dire que ce qui s'appelle, pour les extrémistes, on le traduit par hindouité, hindutva, c'est-à-dire tout ce qui est une façon d'être, une façon de vivre, autrement dit, l'hindouisme en général et les textes des brahmanes en sanskrit, que je vais dire sacrés, qui le soutiennent, c'est beaucoup plus une façon de vivre ou un état d'esprit qu'une religion. Et que par conséquent, faire appel à ces dévots hindous pour le soutenir, c'est faire appel à la culture hindoue. C'est pas du tout faire appel à leur religion hindoue. Donc vous voyez entre quoi on se promène. C'est pour ça que définir la religion, ça me paraît le premier point à faire ici, et que c'est la Cour suprême qui l'a définie. C'est-à-dire, mais qu'en même temps, elle a réussi, dans beaucoup de ses jugements, et nombreux, de soutenir une idéologie nationaliste hindoue, en prétextant que, justement, dans beaucoup de cas, eh bien, il s'agit d'une culture traditionnelle, la culture hindoue, et qu'on n'est pas dans le strict domaine de ce qu'on appelle religion. Et on ne peut pas quand même jouer de cette manière-là, disons, en France, en Europe, en soutenant à fond, si je le peux dire, ou par une instance judiciaire ou politique supérieure, que, après tout, être catholique, c'est une façon de vivre, une culture, mais ça n'est pas une religion, dans le sens que nous avons. C'est aussi une religion avec des institutions, et que, par conséquent, dissocier l'un de l'autre, c'est extrêmement difficile. Bon, je passe maintenant à définir le séculier, sécular. Bon, ces termes, sécular et socialiste, n'ont été introduits dans le préambule qu'en 76. Bon, par un amendement, le 42e, la constitution indienne, qui est la plus longue du monde, en est, je l'ai vérifié, je pense que je suis à jour en ce moment, au 101e amendement. Quelques petits, mais quelques importants. Voilà. Et c'est Indira Gandhi. Alors, je rappelle aussi, pendant le court temps où elle a imposé en Inde le seul pouvoir autoritaire qu'on n'ait jamais connu, et qui s'appelle l'état d'urgence, l'emergency, de juin 75 à mars 77, comparé aussi avec Pakistan ou Bangladesh. Bon. Mais ce que l'on sait, c'est que justement, très vite, le parti du Congrès, qui était celui de Nehru, de Gandhi, qui a commencé avec Tilak avant, je vous rappelle que le Parti du Congrès, fondé en 1885, l'a été à l'initiative des Britanniques qui voulaient avoir quelques bons notables, si je peux dire, un peu d'abord parlant l'anglais, pour avoir une sorte de répondant. Moyennant quoi, ces intellectuels, ces avocats, ces notables, hindous pour la plupart, mais avec des musulmans aussi, sont assez rapidement venus sur la position d'une réclamation, non seulement d'une autonomie, d'une indépendance de l'Inde. En 1931, justement, la session annuelle, il y en a tout le temps une par an qui changeait de président, de ce parti du Congrès, énumère une série de droits fondamentaux que l'on retrouvera d'ailleurs 30 ans ou 20 ans plus tard dans la Constitution, dont le point 9 est très clair, l'État doit observer une neutralité en ce qui concerne toutes les religions. Donc voilà, le sécularisme est posé. Ensuite, on a l'impression d'avoir une unanimité, un consensus à peu près partout. Pour prendre la position de Gandhi, justement, dès 1933, il est clair. Il y aura un État séculaire. Alors, je vais dire séculier en français, mais c'est séculaire, évidemment, qu'il je pense. En 1946, il dit à un missionnaire chrétien, « Si j'étais un dictateur, religion et État seraient séparés. Je vis, je jure par ma religion, je mourrais pour elle. » Gandhi, il y a beaucoup de gens pourquoi il était prêt à mourir. mais c'est mon affaire personnelle. L'État a rien à voir avec elle. C'est l'affaire personnelle de chacun. Et 2 mois avant d'être assassiné le 30 janvier 1947, il s'oppose au financement par l'État de la reconstruction d'un temple, disant « Nous avons formé un gouvernement, c'est un gouvernement séculaire, c'est-à-dire ça n'est pas un gouvernement théocratique. » Voilà. Il n'appartient à aucune religion particulière, sous-entendu d'abord, il n'appartient pas à l'hindouisme, et par conséquent, il ne peut pas dépenser de l'argent sur la base des « communities », qui est le terme assez courant pour désigner quel groupe religieux. Hein, voilà. Bon. Alors, ici, ce qu'on voit très bien, c'est que l'affirmation séculière est à religion séparée. Mais on voit bien que pour lui, ça veut dire l'État n'a pas à s'occuper de ma religion. Et je le pousse au maximum, il n'a même pas à payer quoi que ce soit pour ma religion. Donc, de ce point-là, le sécularisme de Gandhi, c'est bien ma religion, l'État n'a rien à voir avec, et je refuse que même il paye quoi que ce soit pour ma religion. La position de Nehru sur cette question paraît proche de celle de Gandhi. Bon, par son éducation, sa formation, il était socialiste. Je pense qu'il était athée, au minimum, on dirait, agnostique. Il a, de ce point de vue-là, la même position que Gandhi. Sauf que, je dirais, pour lui, de son point de vue, de son éducation, de sa formation, de socialiste, de athée, il faut tenir les églises en dehors complètement du pouvoir et des décisions de l'État. Et donc, on se rejoint pour la séparation de l'un et de l'autre, mais avec des visées qui sont totalement différentes et qu'on reverra évidemment quand, dans l'Assemblée constituante et après, les partis nationalistes hindous, eh bien, à leur manière, prendront la position de Gandhi que, d'ailleurs, ils auront assassiné. Bon. Ensuite, effectivement, pour être vide, il faut simplement dire que Nehru, dans sa position très occidentale, au fond, ici, n'a jamais vraiment bien compris ni la religiosité de Gandhi, dont il s'est éventuellement moqué, ni justement le degré de religiosité de la société indienne. Bon. Alors, problème de traduction. Jusque-là, nous sommes en anglais. La Constitution est faite en anglais. Les constituants parlent en anglais, sauf quelques rares qui font un discours en hindi. Bon. Et aucune autre langue de l'Inde, bien entendu. Bon. Alors, jusque-là, il y a religion, il y a secular. Mais il faut rappeler donc que tous ces débats se déroulent en anglais et que la version officielle de la Constitution est en anglais. Simplement, il se trouve qu'en 1987, c'est-à-dire bien postérieurement, un amendement est introduit dans la Constitution qui demande qu'on établisse une traduction en hindi et laquelle devrait être conforme à l'original anglais et avoir le même sens. Bon. Alors, je suis obligé d'utiliser 2 ou 3 termes qui sont en fait des termes sanscrits d'origine, mais repris là en hindi, entre autres, abondamment, parce que dès 1977, Indira Gandhi avait entrepris de faire une traduction. Et évidemment, quand on arrive au terme de séculaire, comment le traduire? Bon, une première traduction est proposée, qui est, je suis obligé d'employer ce terme fondamental, dharma nirapeksha. Bon, nirapeksha, on ne va pas s'éterniser dessus, ça veut dire neutralité ou indifférence. Mais dharma, Ça, c'est un concept pour lequel je ne vais pas vous faire une heure de cours, on approche de la fin, central pour l'hindouisme. C'est ce que, à tort, beaucoup, y compris occidentaux, ont traduit par religion. Quand on parle de religion hindoue, Hindu religion. Hindu religion, c'est le hindou dharma. Et le dharma, eh bien, c'est quelque chose qui est non seulement une valeur, mais une façon d'être, une façon d'exister, un but éventuellement dans la vie, quelque chose qui met ensemble l'ordre dans le monde et l'ordre universel, c'est ce qui est juste par rapport à ce qui est éventuellement injuste, mais juste au sens hindou, c'est-à-dire de quelque chose qui est un ordre du monde auquel on croit, auquel on participe et qui en même temps organise totalement la société telle qu'elle est. Et dont une des expressions les plus ordinaires encore, c'est ce qu'on appelle les lois de Manu, qui est un texte sanskrit de près de 2000 ans, et qui stipule, entre autres, comment est faite la société et comment, bien entendu, existe ce qu'on appelle des intouchables. Voilà. Donc, je veux dire, le dharma hindou, c'est un ordre particulier de la société avec une représentation de l'au-delà, avec ses dieux et avec des règles de conduite. Et parce que, évidemment, c'est complètement religieux dans notre sens à nous, hein, que quand on parle du dharma hindou, eh ben, on l'a traduit par « Hindu religion ». Ce qui est un non-sens énorme, mais qu'on continue à professer. Et donc, effectivement, la première traduction, indifférence, neutralité envers le dharma, c'est quelque chose qui est absolument insupportable, d'autant plus que, justement, le gouvernement, et c'est là qu'il y a un biais encore hindou dans toutes ces lectures, le gouvernement est là pour maintenir le plus haut dharma. Autrement dit, il est là pour maintenir l'ordre social conformément à une sorte d'ordre universel dont on ne peut pas déroger. Donc, même le gouvernement dit séculaire ne peut pas, dans les termes de ses traducteurs de la Constitution indienne, être indifférent aux valeurs du monde et aux valeurs religieuses. Donc, on va proposer une autre version qui, elle, sera acceptée. Ce sera Panta Nirapeksha. Nirapeksha, c'est encore la même chose, hein, c'est-à-dire neutralité ou indifférence, mais Panta ou Sampradaya. Et c'est quoi Sampradaya ? Ça, c'est quelque chose qui veut dire simplement une secte, une école, une tradition orale, une société religieuse, mais au sens petit et étroit du terme. Hein. Ça n'est pas, justement, du tout au sens que nous donnons fort et général de religion. Autrement dit, séculaire, qui devrait séparer complètement la religion de l'État et être quelque chose qui s'occupe de ce monde, on ne peut pas le traduire en hindi, parce que ça voudrait dire tout simplement indifférence ou, et on le verra bien, athéisme. Voilà. Alors, ça n'est pas mieux, d'ailleurs, hein, si on cherche le terme ourdou pour les musulmans. Un de mes collègues, Denis Matringe, qui travaille sur l'ourdou, la société et la poésie musulmane, m'a dit qu'il y avait deux termes. L'un qui, dont l'adjectif là, dini, signifie sans religion, irreligieux, et l'autre mot qui simplement quelque chose de la vie dans ce monde qui fait qu'on ne s'intéresse pas à l'au-delà ni au regard de Dieu qui juge. Autrement dit, et alors un texte tout à fait clair fait en 2007 par des autorités musulmanes en Inde, adopter le sécularisme pour le gouvernement, c'est une apostasie de l'islam. Donc, vous voyez que, effectivement, la traduction même, écrite dans un texte, dans deux des langues importantes, celle des musulmans et la langue dominante des hindous, le hindi, qui s'appuie sur des termes dharma et sampradaya, c'est des termes sanscrits, c'est tout. Hein, et tout, n'importe quelle langue indienne les utilise et les connaît. Donc, effectivement, à la fois, il y a eu ce consensus de façade, mais qui a abouti à, malgré l'opposition et le refus de beaucoup des constituants, à inscrire très clairement dans une constitution en anglais une séparation d'église. Et dire de l'église n'a aucun sens en Inde, hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas des religions qu'on se dit église. Bon, même les musulmans, ce n'est pas la même chose. Bon. Et de l'État. Et poser des libertés de pratique et de prosélytisme même, et liberté de conscience extrêmement claire, extrêmement forte, et encore une fois, aucune religion d'État. Alors, je vais presque vite terminer, parce que quand même, ça fait 50 minutes. Je vous donne un exemple de ce qu'étaient les plus déterminés à un sécularisme radical, mais qui était minoritaire, évidemment, dans la Constituante. C'est une proposition d'amendement faite en décembre 1948 d'un député musulman, Tajammul Hussein. Personne, alors, ça a un certain écho chez nous, et cette rigidité, en quelque sorte, d'une laïcité. Bon, personne ne doit voir aucun signe visible, ni marque, ni nom personnel, ni un habit quelconque qui révélerait ou indiquerait sa religion. Bon, alors, il a bien raison, parce qu'il est en Inde. Hein, parce que, on sait très bien, vous appelez Pershad, eh bien, on sait que vous appartenez à la caste des caillastes. Vous appelez Reddy, mais vous appartenez à la classe des Reddy, etc. Vous vous appelez Sayed, eh bien, on sait que vous êtes un musulman. Donc, effectivement, tout dans l'Inde vous renvoie constamment à la caste, pour les hindous, à la religion. Autrement dit, vous permet, dès que vous êtes un peu familiarisé, de savoir... La question est très forte, à qui vous avez affaire. Parce qu'ensuite, le type de relation que vous aurez, alimentaire, manger, ne pas manger avec, je ne parle même pas épouser ou ne pas épouser, dépendra totalement de ce qu'est l'autre et de ce que vous êtes. Donc, c'est du quotidien, et ceux qui ont été en Inde le savent, que l'on rencontre à tous les coins de rue et tous les jours, dans la rue, et quand on parle avec quelqu'un, on sait à peu près tout de suite qui il est. Qui il est au sens sociologique. Chose que nous nions fortement, parce que nous passons notre temps à dire nous sommes un homme avant d'être un Français, un chrétien, un Bengali, un ferronnier, un Alsacien, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Non, ici, on est d'abord quelque chose, quelqu'un qui est inscrit clairement dans la société quelque part. Par sa langue, et tout ce que le préambule dit, ou tous les articles disent des droits fondamentaux, on ne peut pas faire de discrimination, parce qu'on sait très bien, peut-être plus en Inde qu'ailleurs, que tout le monde diffère d'une manière ou d'une autre, ou par le sexe, évidemment, ou par la langue, ou par l'endroit où il est né, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Ou même, à la limite, si c'est un Indien non-resident aux États-Unis. Hein, c'est une catégorie importante. Bon, par sa caste et par, éventuellement, ce qu'on appelle sa religion. Voilà. Bon. Et le même jour, effectivement, quelqu'un d'autre proposait un autre amendement, un article nouveau. L'État en Inde sera séculier et ne fera, n'aura aucun rapport avec aucune religion. Il aura observé une attitude de neutralité absolue dans toutes les matières concernant les religions de, ou la religion de n'importe quelle classe de citoyens. Bon, alors je termine maintenant la pratique, et ça, ça va me prendre 5 minutes, parce que on est loin, comme on dit, de la coupe aux lèvres, mais je pense que chez nous aussi, pas de la même manière, bon, n'importe quel homme politique indien commence sa campagne électorale dans une ville et après une visite d'un grand temple important. Bon, n'importe l'État lui-même soutient financièrement les musulmans qui veulent aller faire le pèlerinage du Hajj. Bon, ça, c'est vraiment les petites affaires qui fait que le passage, par ailleurs, de la, du politique à des responsabilités religieuses, bon, est constant. Bon, ensuite, effectivement, donc, toujours, l'État, ici ou là, aide quelque chose, intervient. On le voit intervenir, par exemple, pour sur une élection de prêtre dans un temple qui ne lui plaît pas, bon, etc., etc. Bon, autrement dit, en 1974, la Cour suprême a reconnu en quelque sorte qu'au fond, ce sécularisme en Inde, plutôt que un aider à vivre, était devenu un aider à vivre plus qu'un laisser vivre. Au lieu d'une indifférence et d'une distance, du strict mur construit entre Église et État, ce qui est le cas des premiers amendements des États-Unis, eh bien, on s'en mêle, quelquefois pour le pire, contre des décisions et pour intervenir dans un management, ou pour aider, pèlerinage au Hall, se faire appuyer par des brahmanes et un temple quelconque. Voilà. Alors, des deux côtés, maintenant, il y a une opposition, et je termine là-dessus. Il ne faut pas la négliger, les intellectuels, comme un grand sociologue, Madan, et un grand essayiste aussi, Ashish Nandi. Là, le refus de plus en plus clair maintenant du sécularisme, c'est, un, c'est de l'occidental pur, parce que c'est le résultat d'une lutte de l'État contre la religion catholique. Nous n'avons pas de lutte à faire. Ça fleure l'athéisme, et donc, effectivement, le marxisme-stalinisme. C'est le produit des Lumières, auquel nous tenons encore, sur l'individualisme, la liberté du citoyen et un certain nombre de choses. C'est contraire aux valeurs traditionnelles de l'Inde, c'est-à-dire de l'hindouisme, évidemment, qui admet la pluralité religieuse et qui connaît la tolérance depuis toujours. Bon. Alors, en outre, la liberté de prosélytisme, c'est-à-dire de conversion, est vue comme extrêmement dangereuse pour l'hindouisme, puisque c'est des hindous, et en général largement les intouchables, qui, à la suite d'Ambedkar, mais même encore maintenant, désertent l'hindouisme pour se faire chrétien ou musulman. Bon. Et en face, et on peut terminer avec eux, les fondamentalistes hindous, au pouvoir depuis le 26 mai 2014, avec Narendra Modi, qui fut chief minister de Gujarat, le petit État juste là, à l'ouest, au-dessus du Maharashtra et de Bombay, à la limite du Pakistan, et qui a, je l'ai rappelé, sur les mains quand même le sang d'un pogrom anti-musulman en février 2002. Bon. Et l'année dernière, il y a un an, à l'occasion du Republic Day, le ministère de l'Information et de la Communication a-t-il dit après une erreur, distribué un petit leaflet, comme ça, facsimilé de la Constitution avant 76 et le 42e amendement, c'est-à-dire sans les termes sécular et socialiste. Bon. Et immédiatement, la Shiv Sena dont j'ai parlé, ce mouvement anti-musulman brutal et très fondamentaliste hindou, a immédiatement réclamé que l'on supprime ces deux mots du préambule. Argument, l'Inde a été divisée sur la base des religions, le Pakistan est devenu musulman Et ce qu'il reste maintenant, c'est un Hindu Rashtra, c'est-à-dire un empire hindou. Voilà. Et alors, bien entendu, on se réfère de cet empereur Ashoka, au IIIe siècle avant notre ère, qui, à la suite d'une conquête extrêmement meurtrière et violente, s'est converti à la non-violence, ce qui s'appelle Ahimsa, et qui est ce dont Gandhi était le protagoniste, et a encouragé le bouddhisme. Mais bien entendu que dans l'heure actuelle, ce qu'il se passe pour ces fondamentalistes qui parlent de la tolérance hindoue, c'est que musulmans et chrétiens sont de plus en plus humiliés et persécutés, et qu'il y a eu, entre autres, mais je dis bien entre autres, ce fameux pogrom en février 2002, dont le chief minister Modi portait la responsabilité. Et s'il refuse les conversions de Dalit, Bhaskast et autres vers le christianisme, ils ont mis depuis plusieurs années un système de reconversion qui s'appelle Ghar Wapsi, retour à la maison, pour ces gens qui, à un moment ou à un autre, avaient quitté l'hindouisme pour essayer de les faire revenir. Bon, autrement dit, leur tolérance a connu ses limites. Et il faut rappeler, ce qui n'est pas nul, pour terminer exactement, que le droit des personnes en Inde, c'est-à-dire tout ce qui concerne mariage, héritage, toute la vie personnelle, est un droit confessionnel. Autrement dit, les musulmans ont la charia, auquel les Anglais s'étaient bien gardés de toucher, mais ça n'a pas la forme de l'Arabie saoudite. Bon, quand même, rassurez-vous. Et les hindous ont un Hindu Code Bill, c'est-à-dire, en fait, un certain nombre de règles qui sont toutes sorties de ces textes anciens comme les lois de Manu, et essayer de réformer ce Hindu Code Bill, ce que l'Assemblée constituante et Ambedkar ont fait à un moment, a été voué à l'échec, en dehors de quelques lois qui apparaissent maintenant. Et l'idée d'un code civil unique pour tous les hindous, qui est inscrit dans la Constitution, article 44, n'a jamais eu, et ne verra sans doute jamais, le jour. Au début, les musulmans y étaient très opposés parce que leurs droits personnels, ils y tenaient. Il y avait une certaine opposition des hindous et maintenant, ça s'est renversé. Ce sont les fondamentalistes qui demandent un code civil pour embêter les musulmans de façon à ce qu'ils ne soient plus ni protégés ni favorisés, disent-ils, par les lois. Et contre cette vision des choses, ses droits personnels, eh bien, la Cour suprême joue parfois de la Constitution ou du Code pénal qui, lui, s'occupe et concerne tout le monde. Donc, voilà où on en est. Une société séculaire qui met de plus en plus en doute la propriété de ce terme et de cette politique pour l'État indien, avec effectivement une condition des musulmans et des chrétiens très mauvaise par moment, et toujours finalement un droit personnel, en tout cas pour les musulmans et les hindous, qui repose sur la religion avec les guillemets qu'on veut. Excusez-moi, j'ai été un petit peu long. Merci.